gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Et à tous, c'est La Causerie, dimanche 22-23h, sur les ondes de Radio Canu au 102.2 et partout dans le monde sur radiocanu.org. Ce soir à la technique, on a Clara.
Bonsoir.
Autour de la table, nous avons Stan.
Bonsoir.
Jonathan.
Bonsoir.
Jean-Yves.
Bonsoir. Et Fab.
Bonsoir. Voilà, pour une fois, on m'a pas oublié. Oh, ça va, je peux plus déconner. Alors, petite pensée quand même pour les gens qui sont en train de se faire gazer à Lyon. On voit que la politique de Monsieur Macron, que vous connaissez tous et qui a été élu ce soir, est déjà appliquée dans les rues du Grand Lyon. Et oui, car le porte-parole de Monsieur Macron est, je vous le rappelle, Gérard Collomb, maire de Lyon. Voilà, c'était juste pour commencer à introduire mon petit coup de gueule avant qu'on démarre, mon petit édito. Et si vous avez envie de réagir, lacauseriecanu@gmail.com ou les blogs.
Bah c'est sur blogs.radiocanu.org/lacauserie.
Voilà, voilà. Et on a aussi un espace sur Facebook où on répond pas, nous écrivez pas. Mais ça peut être pratique pour retrouver nos émissions.
Oui.
Non, mais voilà, il faut être honnête avec les auditrices
et les
auditeurs.
On s'en sert que comme un outil de,
c'est ça.
De propagande. Diffusion.
C'est ça, de diffusion.
Alors, c'est beau. Alors, ce soir, petit édito de ma part, parce que bon, je vais vous révéler des secrets de l'arrière-cour de la causerie, j'étais pas là et tout, et je suis arrivé un peu à l'arrache. Donc voilà, j'ai pas préparé grand chose. Et juste pour rappeler deux choses. Alors la première, c'est que oui, il y a moins de votants que prévu, hein, l'abstention est plus forte. Il paraît que c'est la plus forte de la 5ème République, on n'arrête pas de vous le dire. Hein. Et ben alors, juste comme ça pour dire, a priori, ça marche pas le coup du plus il y a d'abstention, plus Le Pen elle est haute. Ben non, ça marche pas. Parce qu'en fait, le report de voix est exactement celui qu'on attendait, voire même un peu plus pour Monsieur Macron. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes face à un petit vote d'adhésion, quand même, il faut arrêter de se mentir. Et que nous avons donc des gens qui sont allés voter Macron, la fleur au fusil. Et ça, c'est chouette, parce qu'il paraît que ça nous a privés du fascisme. Alors, c'est peut-être, par contre, ça ne va pas nous priver d'avoir le code du travail détruit dans l'année qui vient. Ça ne nous privera pas d'avoir la moitié des hôpitaux privatisés. Ça ne nous privera pas d'avoir Gérard Collomb régulièrement à la télé. Ça ne nous privera pas non plus de devoir nous battre, encore et toujours, parce que, oui, ce soir... Vous n'avez pas fait grand-chose, vous n'avez pas arrêté grand-chose, je suis désolé de vous le dire. Au contraire, vous venez de donner, avec vos voix, en portant M. Macron à 65%, un poids inespéré à une forme de libéralisme que l'on appelle, partout dans le monde, le néolibéralisme. Voilà. J'espère que vous êtes contents, hein, parce que vous avez évité le fascisme, alors il paraît. Bon. Mais vous avez pris le libéralisme. C'était un choix cornélien, il semblerait. Mais je voulais quand même finir mon édito sur une note d'espoir et de joie. Oui, d'espoir et de joie. Je suis content parce que moi qui croyais ne plus jamais voir Ségolène Royal, elle vient d'annoncer qu'elle rentrait dans l'équipe d'Emmanuel Macron et ça, c'est bien, non ? Non. Voilà, vous avez voté pour des vieux, démerdez-vous.
Ok.
Oui, je vous ai dit que c'était un petit coup de gueule. Mais bon, oui, il faudra continuer à se battre. Et oui, le report de voix est assez hallucinant. Et oui, une partie de la droite française vote pour Marine Le Pen, très clairement. Mais tout ça, c'est pas une surprise qu'on arrête de jouer les trucs. Et c'est sûrement pas en mettant du libéralisme et du libéralisme sur du libéralisme que l'on aura des choses différentes dans les années à venir. Voilà. Ouais. C'est important de se le dire parce que je crois qu'on est un petit peu dans un climat bizarre où il fallait aller voter pour sauver la patrie. Ah, quel mot dégueulasse. Eh bien, on va continuer sur ces bonnes choses. Et justement, en parlant d'élections, Stan, toi, tu voulais nous dire qu'il y avait d'autres façons de voter.
Exactement. Alors moi, je ne vais pas m'arrêter sur les conséquences du vote, comment ça va être dirigé après, et le principe même de démocratie. Je ne vais pas aller là-dessus. Hein. On sait, enfin, la causerie, on a déjà pas mal parlé de tout ça, et vous savez un peu ce qu'on en pense. Donc, j'ai juste parlé du système de vote, du système là qu'on a eu sur deux tours, l'élection présidentielle. Je ne vais pas aller plus loin. Mais ça, déjà, ça demande réflexion. Voilà. Donc, bonsoir démocratie. Tu viens de rendre un verdict. Tu as élu un président validé par moins de 20% des Français, si on envoie les résultats du premier tour. Je sais que tu peux pas faire des choses parfaites, mais j'espère quand même, et j'ai l'envie, que tu t'améliores, que tu progresses, que tu avances. Parce que oui, je ne crois pas au fait que tu puisses te transformer d'un coup. Je pense que tu es comme tu es. Et on va essayer de vivre avec, malheureusement. Et de se battre. Moi, j'ai parlé des modes de scrutin alternatifs, ça fait un moment déjà que ça en parle. C'était déjà présent sur les élections d'avant et c'est encore plus le cas maintenant. Il y a une question qui se pose sur comment est-ce que notre système fonctionne et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer, pour le changer. Donc il y a un site qui parle plutôt bien de ça, qui est vote.imag.fr, qui est un regroupement de chercheurs et d'enseignants-chercheurs en économie et en informatique qui viennent du CNRS et de plein d'universités partout en France, qui traitent des différents modes de scrutin et qui proposent même de les tester. Sur notre système actuel, en fait, on détecte plusieurs défauts. Le gros défaut, déjà, c'est d'éliminer au premier tour un candidat qui est en mesure de gagner les élections présidentielles en fait, en duel contre ceux qui gagnent. Donc, oui, je sais qu'à la causerie, vous ne croyez pas trop aux sondages. J'en suis bien conscient. C'est juste que les sondages donnaient par exemple Bayrou gagnant contre Ségolène et contre Sarkozy en 2007. Donc là, on a eu le petit exemple du fait que, en fait, on peut éliminer via ce système-là un homme qui aurait pu faire consensus, du moins consensus dans cette démocratie.
Rappelons que nous n'appelons pas à voter Bayrou quand même.
Non, absolument pas. Je dis juste que
ce n'est qu'un exemple.
C'est un exemple parmi tant d'autres.
Non, mais ce soir, c'est tendu. Il faut faire attention à ce qu'on dit.
On a réellement un réel problème sur le système actuel du vote utile. Pourquoi est-ce que je voterai pour ce candidat-là alors qu'il n'a aucune chance? Mais si je vote plus pour lui, le parti ou cette idéologie va s'effondrer et va disparaître. Et donc, plus personne ne portera mes idées. Et déjà, si vous avez la chance d'avoir un candidat qui supporte vos idées, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et un dernier problème qu'on a également, c'est qu'on ne peut exprimer notre avis que sur un candidat. On est obligé de choisir un candidat parmi plusieurs. Et des fois, certains ont la chance d'avoir plusieurs candidats qui leur parlent, en fait. Parce que c'est des... Voilà. Un candidat, ça présente un programme, et le programme, c'est une idée de comment est-ce qu'on peut s'en sortir. J'espère que c'est un petit peu ça dans leur tête. Techniquement, c'est ça. C'est comment est-ce que le pays va s'en sortir. Donc, on peut se dire, c'est une solution intéressante ici, et celle-là aussi, qui n'est pas exactement la même, peut être intéressante aussi. Je ne peux pas me faire le choix. Bon. Actuellement, on ne peut pas choisir deux candidats.
On ne peut pas panacher.
Non.
On ne peut pas panacher, non.
Non, on ne peut pas. Donc voilà, on a plusieurs possibilités de modes de scrutin. Donc, je vais les enchaîner rapidement. Encore une fois, allez voir le site vote.imag.fr qui est beaucoup plus complet, qu'on mettra le lien sur le blog derrière, qui est très intéressant et qui vous permettra de bien mieux voir et bien mieux comprendre le système que ce que je vais vous expliquer là. On a le vote par approbation. C'est un mode de scrutin qui demande aux électeurs d'approuver les candidats, en fait. On les choisit, on les coche. On sélectionne tous les candidats qu'on aurait validés. Chaque candidat approuvé par un électeur lui apporte un point. Et après, à la fin, c'est celui qui a le plus de points qui gagne. On a le vote par note. Là, on peut noter tous les candidats de moins 1 à 2 points. Ça permet de booster un petit peu son candidat fétiche, tout en permettant de mettre un petit malus à un candidat qu'on considère comme dangereux, néfaste pour la France. Il y a plein de variantes à ce système-là. Là, j'ai parlé du moins 1, 2 points. Il y a le 0 à 2 points, le moins 1, 1 point. On a toujours 0 si possible. Enfin, on a plein de possibilités. On a le vote aussi par classement partiel, qui est là, de la méthode Borda 4. Donc, il y a plein de méthodes.
Comment c'est classe de dire un nom comme ça?
T'as vu? c'est stylé. Hein. Et je pense que c'est un petit peu. Parce qu'en fait, c'est juste classer les candidats, 4 candidats. Donc je pense que la méthode Borda 5, c'est classer 5 candidats. Ouais. Mais bon. Donc la méthode Borda 4, ici, on nous demande de classer 4 candidats par ordre de préférence. Le gagnant, enfin, le premier a 4 points, le deuxième a 3 points, etc., etc. Et à la fin, là encore, celui qui a le plus de points qui gagne. Le petit défaut ici, bah, c'est que je pense que c'est assez compliqué de trouver 4 personnes à qui on veut donner des points. Si on a déjà 1, 2, c'est bien, 4, ça commence à être compliqué. On a le vote par classement partiel et élimination successive. Alors là, il est un petit peu compliqué celui-là. On nous propose de voter pour 4 candidats, pareil, par ordre de préférence. Le vote d'un électeur est d'abord attribué au premier candidat de la liste. Si c'est le candidat qui a obtenu le moins de voix, il est éliminé et le vote est donné au candidat classé deuxième de la liste de l'électeur. Le processus d'élimination se poursuit jusqu'à ce qu'il reste qu'un seul candidat, le vainqueur. Alors, c'est un peu barbare comme ça.
Oui, c'est ce qu'on appelle aussi les votes par plus forte moyenne, en fait.
Voilà.
C'est-à-dire,
c'est un système utilisé en Irlande, en Australie. Ouais, c'est pas si barbare que ça, quoi. Ça existe.
Il a un gros défaut, celui-là, mais je me permets. C'est qu'en fait, il entraîne automatiquement un bipartisme.
Oui.
Parce qu'il arrive un moment où finalement, les gens se disent, c'est pas la peine qu'on présente 8 candidats, parce que de toute manière, sur 8, il y en aura 6 d'éliminés à la première ou plus grosse moyenne. Et ça entraîne un bipartisme très rapide, en fait, parce que, du coup, on se dit, voilà, autant avoir deux dès le départ, et puis on fait qu'une fois la moyenne. Oui, c'est le truc bête, mais.
On a des systèmes qui sont plus sur les opinions, donc on a un système d'opinion sur une échelle continue. Alors, c'est très informatisé pour le coup. On a une petite barre comme ça défilante qui nous permet de mettre entre hostile, favorable, même des petits smileys pour égayer un peu la chose. C'est mignon.
C'est comme The Voice.
Mais c'est très mathématique au final, même si on a des smileys tout ça, on voit bien que c'est juste un vote de moins 50 à 50. Mais par contre, on met sur chaque candidat ce qu'on estime, comment on les voit. Et on a le système qui est un petit peu le vent en poupe en ce moment, le truc un peu classe, par jugement majoritaire, qui est d'ailleurs pas testé sur le site que je vous ai donné, mais tapez système de jugement majoritaire, vous allez voir ça partout, tout le monde en a parlé. On attribue une mention, alors je vais le barbariser, celui-là aussi il est assez compliqué, je vais me faire j'explique, voilà, si vous comprenez tant mieux, c'est cool. Sinon, allez vous renseigner aussi. C'est important, hein, je sais, voilà. Il faut y aller. Donc, on attribue le système du jugement majoritaire. On attribue une mention à chaque candidat. Très bien, bien, assez bien, passable, insuffisant et à rejeter. C'est un système, en fait, qui donne à la fin une espèce d'échelle de couleur à chaque candidat. Le vert foncé, ça va être tous ceux qui ont voté très bien. Après, il y aura un vert un peu plus clair pour les biens, etc. Et puis, ça va aller vers le rouge. Et on va regarder sur le bulletin du milieu, la médiane, celui qui est le plus vert en fait. Et celui qui est le plus vert, il est considéré comme le candidat qui a le plus de gens qui croient en lui. Voilà. C'est un petit système qui change pas tout, mais qui amène autre chose.
C'est marrant, comme tu le décris, ça me fait penser au truc qu'il y a sur les frigos pour la consommation.
Mais il y a un petit peu de ça.
Plus il est vert, plus il est bon.
Exactement, c'est ça.
Pardon.
Plus il est vert, plus c'est bon pour la santé. On espère.
C'est drôle, je trouve, ce truc.
Donc voilà, c'est une présentation assez rapide des systèmes et il y en a beaucoup d'autres. Là encore, je ne donne pas les défauts de chaque système ni les qualités parce que c'est en réflexion. Mmh. C'est des tests qui sont faits, qui sont mis en place là actuellement. On essaye de voir ce qui se passe, qu'on essaye de voir quels sont les résultats, comment ils vont être influencés, est-ce que ça va être différent de la réalité. Pour la petite anecdote, je suis allé voir un système, ils ont utilisé ce système-là pour noter pour élire le meilleur footballeur de l'année 2016.
Wow.
Dans 3 systèmes différents. Et bien à chaque fois, c'est le même résultat. Donc je ne sais pas, voilà, c'est... mais pour les élections, ça sera peut-être différent.
J'espère qu'on n'élit pas les élections comme le footballeur quand même.
Je sais pas, moi, pour moi, on devrait lire comme Miss France, j'en ai déjà parlé, mais c'est un autre débat.
Avec Jean-Pierre Foucault.
Parce que toute la soirée sur TF1, ça serait génial. On regarderait tous la télé. Donc non, c'est vraiment, voilà, c'est juste, je pense. Donc on va voir les résultats de tous ces tests après, parce que ces instituts qui se veulent assez sérieux en tout cas et qui veulent pas faire, des estimations en fait du sondage qui pourrait être repris, etc. Donc ils ne veulent pas donner leurs informations avant. Ils vont tout cumuler, ils vont regarder, ils vont analyser. J'espère qu'ils vont le faire ça de manière intelligente. Je pense, vu les gens qui ont l'air de gérer tout ça, et on va avoir des vrais résultats pour voir. Qu'est-ce que ça aurait donné ?
Est-ce que ça aurait changé quelque
chose ? Exactement. Est-ce que ça aurait changé quelque chose ? Dans quelle proportion ? Est-ce que les petits candidats ressortiraient plus ? Est-ce que. Voilà, tout ça.
Parce que le but, au final, là, c'est pas de donner un nouveau système politique, c'est juste d'amener à trouver un nouveau système de décision démocratique.
Exactement. C'est d'amener
à trouver. Et ça changerait peut-être quelque chose au résultat électoral qu'on a pu avoir, par exemple.
Et même pas qu'au résultat électoral, je pense que ça pourrait apporter quelque chose sur la manière dont la politique est abordée, enfin, la manière dont le marketing politique est abordé, et toute cette mise en avant. Et je pense qu'il y a certains des systèmes que j'ai présentés qui pousseraient à recroire en certaines utopies, à accepter, en fait, de voter pour nos idéaux, sans passer par ce vote utile et obligatoire qu'on nous impose maintenant, se dire, bah, voilà, oui, je vais mettre 4 points à ce candidat-là parce que je le kiffe, parce que je crois en ce qu'il dit. Ok, il a aucune chance de gagner, mais j'y crois. Et peut-être qu'en faisant tout ça, bah peut-être que ces petits candidats, on va se rendre compte que c'est pas des petits candidats. C'est peut-être des choses, des valeurs qui sont partagées par plein de gens. Et ça relancerait un peu les cartes. Peut-être pas. Ce que je veux dire, c'est que là, on a un système, on connaît les défauts de ce système-là. Ils sont flagrants, ils sont importants et ils amènent des choses néfastes à tout ce qui se passe. Et regardons si en changeant un petit peu ce système-là, on pourrait pas avoir quelque chose d'un peu novateur, un petit peu plus, qui reçoit plus représentatif. Ça changerait pas comment c'est dirigé après par un homme providentiel, comme on essaye de nous amener à nous faire croire depuis des années que c'est une personne qui va tout diriger et tout régler. Tant qu'on va voter pour un candidat et pas pour un parti, on aura ce problème-là. Et juste une petite dernière chose, par quoi je vais finir, c'est que justement, je rebondis sur ce que tu dis, Jonathan, au final, c'est que le mode de scrutin, ça correspond à la conception qu'on a d'une vie politique d'un pays. Et donc de le changer, ça influe pas que ce mode de scrutin, ça va influer autre chose. Je n'ai pas de vision, je ne sais pas jusqu'où ça pourrait aller, parce que ça ne changera quasiment rien, mais voilà. Moi, je crois aux petits changements pour des grands changements plus tard.
Moi, si je peux me permettre, il y a un truc que je trouve dommage.
Non, je ne peux pas te permettre.
Non, que je m'en vais. Je m'en vais. Non, moi, il y a un truc que je trouve vraiment dommage, c'est qu'il y a plein d'études comme ça qui sont faites avec toujours l'idée du scrutin. Par contre, j'aimerais vraiment qu'un jour, ces grands penseurs, ces grands sociologues, tout ça, se mettent un jour autour de la table et se disent, tiens, et si on testait le consensus ? C'est-à-dire si on testait, en fait, quelque chose où il n'y a pas de vote. Quelque chose où, en fait, les gens doivent trouver une solution en commun. Ça, c'est mon côté anard qui parle. Mais honnêtement, je trouve c'est étonnant qu'on ne parte pas sur l'idée qu'on pourrait essayer ça. C'est-à-dire qu'on pourrait tester. Alors, pas sur une élection présidentielle, ça c'est clair, parce que il y a une question pyramidale au départ, donc c'est un peu compliqué. Mais par exemple, je sais qu'il y a dans les communes, ça se fait. C'est-à-dire qu'il y a des communes aujourd'hui qui sont gérées par consensus, par les habitants, qui, voilà. Et je me dis, on n'étudie pas ça. Et c'est super dommage, parce qu'au final, quand on y réfléchit, bah, c'est aussi un autre mode une autre façon de faire de la politique. C'est aussi une façon de donner sa vision des choses, et c'est surtout une façon de reprendre la vie en main et de reprendre la politique en main. Et je trouve dommage que dans ces institutions, on ait une espèce de blackout sur ces choses-là. Je trouve ça vraiment dommage.
C'est ce que je dis quand je ne crois pas à des grands changements, parce que même les grands instituts, finalement, n'y croient pas, et je pense qu'il faut amener ces petites choses qui, après, on arrivera dessus.
Enfin, oui, je pense que... Non, mais
ils sont enfermés dans un truc en se disant on est sur un mode de scrutin, on ne peut pas tout changer d'un coup.
Ils sont systémiques.
Reste, voilà.
Ouais, ils sont systémiques. Ils ont un système de pensée qui fait qu'ils restent
sur... On va essayer d'améliorer, mais on garde les mêmes bases.
Mais c'est dommage, parce que je trouve vraiment, vraiment ça dommage. Surtout qu'il y a 3 communes aujourd'hui en France qui sont gérées comme ça. Je trouve que ce serait bien quand même que des sociologues, des politologues aillent étudier, voir comment ça marche, quoi, et nous disent si ça marche ou pas. Bon, moi, je sais que ça marche, mais eux, il faudrait qu'ils le disent aussi. Voilà.
Ouais, ça crée débiliserait les résultats, puisqu'on est dans une ère de consommation aussi, finalement, de la certification.
C'est ça. Mais voilà, enfin bon, c'était mon... Excusez-moi, ma petite sortie, Anna.
et juste pour finir, avant de musique, s'il y a une question... Oui, et puis si on a inventé le vote blanc, il faudrait peut-être le reconnaître quand même. De toute façon, ça aurait intérêt d'inventer un truc, de le mettre et dire « Hey, toi, tu peux faire ça, ça sert à rien, mais... »
Ben en fait, si, ça n'intéresse parce que ça ne fait pas baisser l'abstention, et comme l'abstention sert à valider une élection, vous voyez, c'est exactement ce qui va se passer avec M. Macron, là, ce soir. C'est-à-dire qu'il va pouvoir dire « J'ai été élu par 65% de 75% des votants. » Vous voyez, et c'est-à-dire que ça va lui donner une crédibilité qui est fausse, hein, dans les faits, parce que on sait qu'il y a plein de gens qui sont allés voter contre, machin, ou pour faire barrage, mais en fait ça sert à ça, c'est-à-dire que le vote blanc étant compté dans les personnes qui se sont exprimées, et ça augmente le chiffre et ça évite de diminuer l'abstention, ça crédibilise l'élection. C'est pour ça qu'aujourd'hui on ne les comptabilise pas, mais qu'on le permet. Voilà.
C'est beau.
C'est bon, ça va.
Musique ?
Allez. ボブネズミみたいに美しくなりたい写真には写らない美しい
Remettre les 40 dernières secondes de la chanson. On n'a pas bien compris le titre. Je crois que c'est Linda Linda et c'est The Blues Heart.
Et voilà. C'est dans quelle émission?
Moi je connais ça, c'est tiré d'un jeu vidéo que je jouais sur DS qui est le meilleur jeu vidéo de la Terre. Ah. Ça s'appelle Wendan quelque chose, c'est un jeu de rythme, c'est génial. Jouez à ça, mais perdez votre vie là-dessus.
Et en fait,
sinon c'est
où,
la causerie, voilà. 102.2, Radio Canu, tout ça. Vous savez, de toute façon vous êtes dessus.
C'est vrai. Mais des fois, il faut leur rappeler aux gens. C'est peut-être qu'ils se sont trompés, ils sont tombés sur cette musique, ils sont dit c'est bien. Et là, d'un coup, ils se disent merde, c'est la causerie.
Et Jean-Yves, du coup, un 1er mai sans manif n'est pas un 1er mai.
C'est vrai. Et bien, je voulais vous proposer, parce que c'était il y a une semaine, quasi pile poil, à quelques poils près, et c'était vous proposer un petit tour du monde. Alors attention, je ne vais pas faire les 189 pays autres que celui dans lequel on vit, mais c'est un petit balayage mondial, dirons-nous, de ce qui s'est passé ailleurs. Alors j'avais envie de commencer par la Russie. Avec un très beau et très grand rassemblement sous les couleurs du parti de Monsieur Vladimir Poutine. Donc bon, là on s'en fout, hein, c'est-à-dire, enfin, mis à part la grandeur des rassemblements pro-Poutine qui deviennent quand même de plus en plus grands et de plus en plus importants. Là où aujourd'hui ils étaient 1,5 million, enfin le 1er mai à Moscou, il y a quelques années ils étaient 100 000. Voilà. Mais je voulais quand même parler de la Russie, c'est parce que à Saint-Pétersbourg. À l'appel de l'opposant de Poutine, il y a une vingtaine de militants et militantes pour les droits des LGBT qui, à visage couvert de faux sang et munis d'un drapeau aux couleurs de l'arc-en-ciel, manifestaient contre la répression qui a lieu en Tchétchénie. on en a parlé ici. Donc voilà, donc forcément 18 interpellés. Voilà, donc 18 personnes qui se sont fait arrêter parce qu'elles exprimaient la solidarité internationale. Ensuite, on peut partir en Turquie. Où là, la fête des travailleurs était un petit peu sous tension, hein, parce que ça fait quand même deux semaines que le référendum est passé. Le référendum qui a quand même considérablement renforcé les pouvoirs du grand président Erdogan, et dont le résultat est quand même contesté par l'opposition.
Démocrateur, on dit aujourd'hui.
Démocrateur, d'accord. Et donc, plus de 200 personnes ont été arrêtées lorsque des militants de gauche, des anars et des syndicalistes ont essayé de rejoindre la place Taksim, qui était un lieu traditionnel des manifestations du 1er mai jusqu'au massacre sanglant de 1977.
Les copains de DAF, you're welcome.
Oui, c'est ça. Il y a des copains anars qui se sont fait emmerder, on le sait. Donc voilà, la police a évidemment, comme aujourd'hui, tiré des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc sur les manifestants. C'est bizarre, hein, on change de pays, mais des fois les images restent à peu près les mêmes. Et il y avait aussi des banderoles qui dénonçaient, annonçaient longue vie au 1er mai et non au dictateur. Ce qui a un petit peu sûrement de quoi hérisser le grand patron de la Turquie. En Allemagne, il y a la manifestation berlinoise, hein, qui est toujours un assez grand rassemblement pour un 1er mai révolutionnaire. Ils étaient 10 000 personnes. Il y a eu quelques incidents. Je vous épargne les noms. À Kreuzberg et à Neukölln. Et évidemment, il y a eu des lancements de projectiles sur la police, etc. Et la police a utilisé donc du spray au poivre et a fait 40 arrestations. Et à 170 km au sud-ouest de la capitale, à Halle, il y a 5 agents qui ont été blessés pendant que les forces de l'ordre défendaient un rassemblement de 500 manifestants d'extrême droite contre une manifestation antifasciste de plusieurs milliers de personnes. Là aussi, hein, la police a fait usage de matraques, de gaz contre les antifas et qui compte 5 blessés dans les rangs de la police. Et à Stuttgart, il y a aussi un policier qui a été blessé lors de la manifestation de la gauche révolutionnaire. On part maintenant en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, le président, hein, qui avait des rapports assez sympathiques avec le syndicat le plus grand là-bas, il a dû quitter précipitamment un rassemblement au 1er mai, ce qui, je trouve, moi, est plutôt une bonne nouvelle. Hein, quand les travailleurs et les travailleuses dégagent un représentant, un président, c'est très bien, il n'a pas à y être là-bas parce qu'on les combat, je pense, toujours. Il se préparait à faire son discours et tout, et en fait, les gens, ils ont dit non, en fait. Ils ont chanté contre Zuma, ils ont demandé ça démission, et la grogne elle grandit de plus en plus, en fait, parce que il a passé des réformes, il a viré du monde, etc., ce qui fait moyen plaisir aux forces progressistes qui sont habituellement proches de l'ANC, qui est donc au pouvoir.
Juste un point sur le... Non, mais parce que je l'ai en
t'avais
tête.
Dit, t'as coupé, pardon.
Oui, pardon, mais c'est parce que je l'ai en
vas-y,
tête.
Vas-y.
La dernière loi que vient de passer, donc le président Zuma. Et son premier ministre, c'est l'idée de l'interdiction des manifestations syndicales devant les entreprises, c'est-à-dire l'interdiction de bloquer son usine. Vous voyez.
Il faut aller à la campagne pour bloquer. C'est bien connu.
C'est bien connu.
On part maintenant, on remonte, on va en Grèce. La Grèce, les syndicats ont marqué le 1er mai par des défilés et une grève nationale de 24 heures contre de nouvelles mesures de rigueur, évidemment, en échange de la poursuite du versement de prêts. Vous savez, tous ces beaux trucs avec le FMI, l'Europe, etc., où on saigne finalement le peuple grec pour le bien des financiers.
Avec la Grèce insoumise de Tsipras.
C'est ça. bien placé. Et à Athènes, il y avait quand même 10 000 personnes, et à Thessalonique, il y avait 3 500 personnes. Là, on part complètement ailleurs, on va à Taïwan. À Taïwan, il y avait des milliers de travailleurs taïwanais qui ont défilé dans la capitale, donc à Taipei, contre les bas salaires, les mauvaises conditions de travail et l'élimination du minimum vieillesse de retraite.
Ah ils ont Macron là-bas aussi.
C'est ça qui est assez intéressant, c'est comme la violence des forces de l'ordre, des fois les revendications des syndicats et des syndiqués, on a les mêmes en fait. Là, on peut aller en Corée du Sud. La Corée du Sud, à Séoul, il y a des travailleurs coréens qui ont défilé, évidemment, qui concentraient leurs revendications sur une réduction de l'utilisation des travailleurs intérimaires et des entrepreneurs indépendants pour échapper au paiement des salaires et avantages légalement exigés.
Uberisation.
Eh oui. C'est drôle.
Traduit.
Il y a vraiment tant de ressemblances. L'Espagne, ça a aussi manifesté. Ça a manifesté à Madrid. Ça a manifesté dans plus de 70 villes avec un slogan qui était de plus d'excuses. Les syndicats ont demandé au gouvernement de revenir sur la réforme du Code du travail. Ah bah tiens. L'augmentation, ils ont aussi demandé des augmentations de salaire et l'amélioration des régimes de retraite. Oh ben tiens, tant de similitudes encore. Et donc il y avait aussi pas mal de monde qui était contre la corruption parce que le parti au pouvoir a quelques soucis de malversation, etc. En tout cas des soupçons de malversation, attention, hein, présomption d'innocence, tout ça. Et donc il disait le plus corrompu c'est Rajoy, c'est un joli slogan quand même. Et donc voilà, donc des milliers de gens aussi en Espagne. En Ukraine, en 1er mai, hein, toujours, on est toujours le 1er mai, hein, c'est plein de choses. En Ukraine, eh ben, y a un groupe de manifestants de gauche, alors il y avait des cocos, etc., qui ont été attaqués par...
L'extrême droite.
Évidemment, par un mouvement nationaliste, le C14, ça se dit à Vinnytsia, dans l'ouest de l'Ukraine. La police est intervenue, il n'y a pas eu de blessés, mais en tout cas, il y a eu de la violence quand même.
Il n'y a pas eu officiellement de blessés.
C'est ça.
Toujours bizarre en Ukraine.
C'est ça. En Philippines, les organisateurs des manifestations du 1er mai affirment que plus de 35 000 personnes se sont rassemblées sur la grande place de Manille contre les emplois contractuels temporaires pour exiger des augmentations de salaire. Ce prononcé en faveur des droits des femmes et des homosexuels tout en condamnant l'impérialisme américain. Et certains aussi ont tenu des pancartes pour dénoncer les meurtres extrajudiciaires qui ont lieu en ce moment aux Philippines sur ordre du président élu Rodrigo Duterte qui veut désinguer tout dealer, tout fumeur, tout drogué ou soupçonné comme drogué, enfin bon. Donc voilà, là-bas aussi ça a bougé pour les droits des travailleurs et des travailleuses. Au Liban, on part, on va dans tous les sens.
Je n'ai fait voyager.
Mais oui. Au Liban, c'est le parti communiste, libanais, et d'autres, et des syndicats qui ont défilé à Beyrouth demandant une amélioration des conditions de travail et dénonçant la confiscation du pouvoir. Au Bangladesh, allez, allons-y. Des milliers de travailleurs du vêtement se sont réunis pour exiger des augmentations de salaire ainsi que des meilleures allocations pour le logement, la santé et l'accès pour leurs enfants à l'éducation. On part au Cambodge. Au Cambodge, il y a eu des milliers, un millier de travailleurs du vêtement là aussi qui ont défilé pour une... malgré l'interdiction gouvernementale.
Oui.
Hein. Donc c'est ça aussi qui est intéressant quand même. Hein, c'est...
Comme aux Philippines d'ailleurs.
C'est bah, des fois il faut dépasser les interdits hein, que les États veulent nous imposer. Donc un million de personnes qui ont un million. Je m'emballe.
Ils auraient aimé, hein, je pense.
Calme-toi, ce n'est pas le grand soir. Non, c'était un millier de travailleurs, donc hein, comme je vous l'ai dit. Alors c'était drôle, mais j'ai trouvé ça intéressant quand même, qui ont présenté une pétition demandant un salaire minimum plus élevé et des droits démocratiques plus larges. Parce que là-bas, se rassembler, etc., c'est un petit peu compliqué, dirons-nous. Donc, les marcheurs ont rempli une rue près du Parlement. Ça s'est arrêté devant une barricade et la police anti-émeute. Hein. Et donc, il y a eu une confrontation de plusieurs heures quand même, jusqu'à ce qu'un représentant de l'Assemblée nationale est quand même venu récupérer donc, la pétition que ces gens voulaient leur transmettre. Donc, il a quand même fallu attendre quelques heures de castagne pour ça. Et donc parmi les demandes, hein, c'était la hausse du salaire minimum qui est pour l'instant de 153 $ US pour aller à 208 $ US. Hein. Voilà. En Indonésie, il y avait 10 000 travailleurs qui ont marché vers le palais présidentiel à Jakarta pour exiger une augmentation de salaire minimum, des limites aux délocalisations de production et une amélioration des soins de santé et des conditions de travail. Et que là aussi, c'est-à-dire qu'on est en Indonésie, hein. Vous savez, ici, ils nous disent toujours « Oh, la France, ça coûte trop cher, c'est pour ça qu'on délocalise. »
Ils font pareil partout.
Bah là, en fait, en Indonésie, je pense que le salaire est quand même pas le même qu'un salaire européen. Et pourtant, la menace et la pratique de la délocalisation est toujours là. Donc comme quoi, je pense que tant qu'ils devront nous payer, je pense qu'ils continueront de délocaliser en fait. Hein. Je crois que le gros problème c'est ça, c'est de devoir nous payer. Et je voulais terminer par le Gabon. Ouais, je vais terminer par le Gabon. Où près de 200 syndicalistes ont été dispersés par les forces de l'ordre lors d'une manifestation organisée à Libreville, donc à l'occasion du 1er mai toujours, et qui n'était pas autorisée, selon la police. Donc ces militants, un membre de Dynamique Unitaire, c'est une coalition de syndicats de plusieurs secteurs d'activité qui regroupe l'éducation, la santé, l'industrie et d'autres, qui ont été chassés par les forces de sécurité gabonaises qui ont invoqué la loi d'interdiction d'attroupement. C'est drôle, hein. Là aussi, il y a des lois qu'on retrouve partout. Pardon. Et donc, cette coalition syndicale, elle avait décidé de ne pas participer à la cérémonie et au défilé organisé par le pouvoir et le gouvernement d'Ali Bongo, ou Ondimba. Et donc, voilà, enfin, faut quand même savoir que le Gabon est toujours encore proie à des... comment dire, à des frics. Non, un climat assez tendu après la réélection très contestée du président sortant, donc Ali Bongo Ondimba. Donc voilà, et ce que réclamaient aussi ces syndicalistes que la police a dégagé, c'était stop à la violation des droits des travailleurs et des libertés syndicales. Voilà, pour le tour du monde, je voulais vous parler des États-Unis, mais ça va faire trop long, mais je voulais juste s'y relever quand même cette modification historique. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, en fait, le 1er mai, bah, il n'existe pas. Le jour du travail...
n'existe plus.
Le jour du travail, il est en septembre. Alors, toutes celles et ceux qui nous écoutent, je vous invite à aller vous renseigner sur l'histoire du 1er mai. C'était en 1889, si je ne me trompe pas.
Ou 6, je crois.
Ou 86, pardon. Et ça se passait à Chicago, donc aux États-Unis. Il y a des gens qui ont été tués, etc. Et c'est de là qu'est né la notion internationaliste et internationale de faire le 1er mai, qui n'existe plus aux États-Unis. C'est pas joli la réécriture de l'histoire par les puissants ?
C'est beau.
Ben oui, c'est beau. Donc voilà, mais il y a quand même eu des actions alors, qui n'étaient pas liées au travail, mais là, il y a eu vraiment des manifestations partout contre la politique
de Trump.
Et vraiment, enfin, il y a les dockers qui ont bloqué, etc., en solidarité contre les lois de l'immigration, enfin sur l'immigration de Trump. Donc là aussi, enfin, je pense que il est intéressant de regarder un peu autour de nous aussi, et que cette notion d'internationalisme, elle prend forme dès qu'on regarde en fait ce qui se passe dans les autres pays. En fait, on a des vies différentes, mais nos revendications et nos exploitations sont quand même relativement identiques, avec des conditions. Attention, je ne vais pas mettre les mêmes. Hein. Moi, en tant que travailleur français, je n'ai pas la même que ceux qui sont crevés dans le bâtiment qui s'est effondré au Bangladesh. Mais n'empêche que nos revendications, c'est la même, et nos exploitations, nos patrons, etc., continuent eux aussi.
Et ce sont les mêmes, par contre.
Ce sont les mêmes. Donc voilà pour ce petit tour international du 1er mai.
Juste pour la blague, parce que c'est vraiment pour rigoler, dans plusieurs pays d'Afrique, il y a des manifestations qui avaient comme pancarte « On n'est pas au Gondwana ». Et j'ai trouvé ça très drôle, parce que c'est récupérer un film qui dénonce la corruption sur le continent africain, et de dire ici on n'est pas au Gondwana, je trouvais ça excellent. Voilà.
C'est ça. Pour ce bien entendu, tu as fait une liste assez longue de plein de pays, mais il y a eu des choses partout.
Ah oui, il y en a vraiment
absolument partout, et donc ces revendications, elles sont partout, c'est pas que dans ce qu'on vient
de dire.
Non, clairement, donc voilà, regardons des fois un peu autour de nous, et sortons de ces œillères qu'on voudrait des fois un peu nous mettre, un peu de nation, tout ça, sans frontières, tout ça, hein. Faut qu'on y continue, parce que sinon ils vont vraiment nous faire gober leurs frontières de merde.
Ce n'est qu'une vue de l'esprit, les frontières. Demandez à Google. Suivant le pays où vous êtes, les frontières ne sont pas les mêmes.
C'est vrai.
Donc je pars du principe que, enfin voilà, c'est déjà révolu comme concept.
Et ben on va passer à la musique. Et ben en plus c'est un titre spécial 1er mai. Allons-y.
J'ai rêvé d'un pays, mon frère, un pays qui n'aurait de loi, oui, que le solidaire, oui, de se partager. Un horizon pour l'éphémère, pour une éternité, nous serons la lutte. S'il faut faire du peuple béton, des peuples de muguet, cramer leur pognon pour en faire un feu pour réchauffer. Le sans-abri quand vient l'hiver, le cœur du sans-papier, nous serons la lutte. Toujours manifestation, amis, le 1er mai, pour dessiner un horizon pour nos humanités. Toujours le cœur contre le front, ouais, lâche-moi ton briquet. toujours le cœur contre le front. Moi j'ai le poing levé. Sur les réseaux, la fachosphère vient toujours gangréner le cœur de mes humanitaires, envie de tout casser. Contre les barbares de la terre, amis, faut pas lâcher, nous serons la lutte. Contre les croix des religions, les enfers du progrès. Contre les maquerelles du pognon, contre les croix gammées. Amis, s'il faut planter des fleurs ou lancer des pavés, nous serons la lutte. Entre les trous noirs et les guerres, nos univers écartelés. Entre nos salaires de misère et l'odeur des charniers. Si c'est toujours toi populaire contre la société, nous serons la lutte. Contre les marchands du malheur, tes bonheurs bon marché. Les réseaux d'amputés du cœur, violeurs d'humanité. L'oiseau liberté dans la toile, le peuple est prisonnier, nous serons la lutte. Un jour j'irai brûler la bourse, ami, un 1er mai. S'il faut cramer la financière, relâche-moi ton briquet. Pour aller pisser nos bières sur la gueule du banquier. Si l'horizon c'est la galère, ouais pour l'éternité. Un jour j'irai brûler la bourse, ami, un 1er mai. Ami, si pour sauver la terre, faut pendre le banquier. Avec toi le peuple des tours, toi peuple des forêts. Avec le peuple enfant des plaines ou celui des quartiers. Avec tous les peuples printemps, les peuples des colliers. Avec le peuple camarade qu'on vient le 1er mai. S'il faut monter la résistance contre les enculés. Amis, s'il faut sauver la France, s'il faut la libérer. Des sourires des politicards, des sourires de banquiers. S'il faut garder le cœur anard, garder le poing serré. Un jour j'irai brûler la bourse, ouais, lâche-moi ton briquet. Avec les potes manifestants, s'il faut la lutte armée. Amis, s'il faut refaire la terre, s'il faut l'imaginer. Un peu commune, égalitaire, oui, fleur d'humanité. Pour faire des jardins de nos cœurs, des amours en bouquet. Dans les yeux du peuple, labeur, un rêve, une liberté. Dans les yeux du peuple, labeur, un rêve, une liberté.
Recoucou, c'est toujours la causerie, dimanche 22-23 heures. Alors, c'était un titre de Damien XVI qui s'appelle 1er mai, un inédit qu'il a fait pour le 1er mai. Et c'est vrai que Damien XVI nous a sorti un diptyque pour l'instant, deux titres assez étranges, avec un premier disque bilaire où il essaye d'expliquer ce qu'on ressent, et un autre où il essaye d'expliquer quelles sont les solutions. Alors un conseil, n'écoutez pas que le premier, ouais. Écoutez les deux, sinon vous ne comprendrez pas le principe. Voilà, c'était juste pour dire que c'est une œuvre étrange. Mais moi perso, le premier ne me plaît pas du tout. Voilà. Donc, et bien on va continuer avec... Ah bah oui, Jonathan au pays des bisounours.
Bah oui.
Donc, bah alors, qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors déjà, voilà, je le dis, auditeur, équipe de la causerie, souvent, on me traite de bisounours, comme si c'était une insulte. Ah mais toi, t'es vraiment trop un bisounours. Ah mais comment t'as fait pour pas y penser ? Mais t'es vraiment qu'un bisounours. Bon alors... Voilà, ce soir, j'ai décidé d'expliquer pourquoi, en âme et conscience, je suis un bisounours.
C'est pas lié au fait que t'as un arc-en-ciel sur le ventre et que tu clignotes.
Non, ça, c'est la drogue, ça.
Ah, pardon, excuse-moi, c'est ça.
Alors, non, je n'ai pas d'arc-en-ciel sur le ventre. Ce soir, j'ai une étoile noire. Voilà. Mais pas comme dans Star Wars. Bref, trêve de conneries. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. J'ai vraiment envie de vous parler d'un truc important. C'est la question de la pensée en politique. En fait, c'est ça. Mais là, dit comme ça, c'est trop sérieux. Donc, je préfère dire voilà, Jonathan au pays des bisounours. Parce que, voilà. Et donc, je vais d'abord aborder trois concepts. De manière un petit peu étymologique, hein, puisque voilà, étalons nos connaissances, bonsoir. Utopie, qu'est-ce qu'une utopie ? Pourquoi je commence par une utopie ? Pourquoi je suis aussi cynique ? Parce que, bah, quelque part, l'utopie vient du grec utopos, qui veut dire en aucun lieu. Voilà. Donc c'est quelque chose qui ne peut pas se réaliser, qui a un caractère impossible. C'est un concept qui a été inventé par Thomas More en 1516 dans son livre Utopia, qui définit un monde voilà, qui serait parfaitement organisé, parfaitement gouverné. Et donc, à l'époque, l'autorité religieuse était très présente, donc il a fallu qu'il fasse passer ça pour quelque chose qui n'existait pas, qui n'était pas possible, d'où le nom utopie. Et donc, ce type-là, c'était pas le seul à rêver d'une utopie politique, c'est-à-dire un régime politique idéal qui permettrait de gouverner parfaitement les hommes avec un grand H, hommes, femmes, enfants, vieux, etc.
Même si Thomas More, c'était flippant, hein, sa vision de l'utopie.
Voilà, non, alors attention, après voilà, quelque part on peut se dire, certaines utopies, heureusement que c'est en aucun lieu.
surtout la sienne, quoi.
Voilà, non mais même, j'ai envie de dire, l'utopie lupéniste, quoi, oui, en aucun cas, en aucun lieu.
D'accord.
Voilà. Mais c'est une utopie, c'est une vision finalement idéale d'une organisation de la société. À ne pas confondre avec une idéologie c'est un système. Donc à ce moment-là, c'est une réflexion qui n'est pas seulement menée sur qu'est-ce que l'on aimerait, mais sur des observations qui passent par le filtre d'idées et de catégories, et donc qui amènent une perception politique finalement de ce qu'il est possible ou non de faire en fonction d'une utopie de base qui nous donne des idées. Donc voilà, donc l'idéologie se différencie de l'intuition, de la réalité sensible perçue comme telle. Ça implique une réflexion et donc un système d'idées. Et enfin, le troisième terme, c'est l'idéalisme. Alors, qu'est-ce que c'est que l'idéalisme ? Eh bien, c'est quelque chose qui se définit non pas en soi, mais en opposition avec autre chose. Donc, soit avec le réalisme, soit avec le matérialisme. Donc, en philosophie de la connaissance, cet idéalisme qui est une réalité abstraite ou mentale s'oppose au réalisme qui est le monde externe, qui existe indépendamment de ce dont on a conscience et de ce que l'on connaît. Et en philosophie de l'esprit, la réalité idéaliste, on va dire, c'est l'esprit, la perception qui s'oppose au matérialisme, qui est la réalité utile, donc les choses concrètes et physiques et visibles. Et là, on s'aperçoit qu'il y a le mot utile qui ressort. J'y tiens parce que du coup, c'est dans cette idée, donc dans cette position finalement qu'on prend idéaliste, qu'on se dit qu'il y a peut-être une utilité à faire quelque chose. Si on s'oppose à cet idéalisme, on devient matérialiste, voire pragmatique. Et c'est à ce moment-là qu'intervient le concept d'utilité, notamment pour le vote utile, mais j'y reviens. Alors, moi, le grand bisounours, pourquoi je donne ces définitions ? Parce que je me dis naïvement que politiquement, les gens doivent réfléchir à ce qui convient le mieux pour eux et pour le plus grand nombre d'individus quand ils se projettent finalement, quand ils vont devoir prendre une décision. Et en effet, nos représentants, techniquement, se basent sur des idéologies pour répondre à cette question de l'organisation sociale, etc., mais aussi de ce qui serait le plus favorable au plus grand nombre d'individus. Et normalement, ces idéologies sont issues d'une réflexion un petit peu idéaliste, puisque c'est se projeter vers quelque chose qui n'existe pas encore, mais qui devrait s'améliorer. Peu importe pour le moment le sens dans lequel ça devrait s'améliorer, mais bon... Voilà, pour certains, on serait content que ça reste qu'au stade d'utopie, mais malheureusement, c'est une idéologie.
En fait, c'est une transformation d'une société à partir d'une vision de société. Quand on porte quelqu'un, il applique sa vision.
C'est ce qu'on s'imagine qui devrait se passer.
Mais c'est pas toujours ce qui se passe.
Mais malheureusement, non, parce que déjà dans ce cas-là, que vient faire le vote utile? Parce que finalement, est-ce qu'on aurait besoin de réfléchir en termes d'utilité si on portait réellement une personne qui porte nos idéaux, hein? Voilà. Voilà, moi je m'aperçois que maintenant, pour faire prévaloir des idéologies, et là je commence à mettre des guillemets autour des idéologies, on use de stratégies politiques. Donc la stratégie politique, par exemple, qui consiste à se retrouver au second tour face à une idéologie a priori impopulaire, donc la représentante ou le représentant d'une idéologie très impopulaire, et comme ça passer pour le candidat utile, le candidat qui permettra d'échapper à cette opinion, à cette idéologie. Donc on vote contre et non pour, mais bon là, j'apprends rien à personne, hein. Mais on est loin d'un idéalisme qui me semble nécessaire pour évoluer, et encore plus pour générer finalement du progrès politique. C'est-à-dire que à partir du moment où on va voter contre quelque chose, on va arrêter d'avancer, on va arrêter d'être dans un mouvement, et du coup on va plus... Voilà, on va plus penser à ce qu'il est possible de faire, on va penser à ce qu'il nous sera impossible de faire si ce candidat se présente, etc. Machin. Et voilà. Et donc, en tant que bisounours, je suis confrontée à d'horribles constats. Je tombe des nues. Voilà, c'est ça le problème d'être un bisounours, c'est que très souvent on fait des grandes chutes. Voilà, on se dit, et ça fait super mal. Et c'est, non mais c'est, des fois je suis à deux doigts de la dépression, et je dis pas ça pour rire, hein. Mais quand je vois ce qui se passe, enfin voilà, je me dis bon. Déjà aujourd'hui, cette stratégie politico-médiatique, on va dire, hein, bon, est très gênante. Enfin personnellement, je trouve ça malsain. J'ai du mal à m'imaginer que, oui, on en parlait pendant la musique, mais qu'on puisse considérer une élection politique qui détermine finalement notre avenir social et économique comme l'élection de pop star, enfin de la nouvelle star ou de je ne sais quoi star, tout ça. Donc voilà, c'est pas possible qu'on vote qu'il y ait un tel culte de la personnalité autour de ça aussi. C'est très gênant. Enfin, c'est
malsain,
c'est,
même.
C'est très proche de ce qu'on a pu voir comme modèles dictatoriaux ces 100 dernières années. Donc bon voilà, je n'arrive vraiment pas à concevoir non plus que des personnes puissent considérer que voter pour une idéologie représentée la moins éloignée de la sienne puisse être utile. C'est-à-dire que j'arrive pas à comprendre l'utilité d'une telle action finalement. Personnellement, pour moi, voter Macron n'était pas la solution contre Le Pen. C'était peut-être moins pire selon certains points de vue, mais c'est tellement plus pire que tout ce que je pense à la base déjà. Donc c'est, c'était dur à avaler, on va dire. Et puis je ne comprends pas non plus en quoi l'entre-soi proposé par certains programmes de gauche comme de droite, hein, pendant ces élections, mais aussi par énormément de gens qui se disent finalement juste entre nous on s'en sortirait mieux, hein, hein. Puis ça marche aussi dans les grands milieux militants où finalement on se dit entre nous on s'en sortirait mieux, on s'en fout finalement des gens autour, du monde autour, enfin les autres de toute manière ils se démerdent, puis vous comprenez, ils ont pas la même culture, ils peuvent pas comprendre comme... Non, mais stop. Enfin, à un moment donné, il y a des choses comme tu le disais, Jean-Yves, quand tu parlais du 1er mai, il y a des choses qui gênent tout le monde en même temps, et c'est normal, c'est parce que c'est gênant. Donc voilà, je ne comprends pas en quoi cet entre-soi pourrait sembler source de progrès, quoi. Enfin, non, enfin, bref. Donc voilà, quand je tombe des nues et que je me dis, mais c'est pas possible, mais pourquoi les gens y réfléchissent comme ça, mais ils sont cons, quoi. On me dit, bah non, c'est toi, t'es un putain de bisounours, en fait. En fait, toi, dans ta tête, tout le monde est beau et tout le monde est gentil. Non, je m'imagine juste que les gens, sensément, iraient vers une forme de progrès qui serait un petit peu humaniste. Parce que c'est bon pour eux, mais c'est bon pour tout le monde aussi. Enfin voilà, bref, après, j'ai pas l'impression de me gourer là pour le coup. Enfin voilà. Donc pourtant, il me semble. Enfin, c'est vrai, parce que si on espère de nouveaux modèles politiques et à minima un petit peu de progrès, hein, comme le disait Stan tout à l'heure dans sa chronique, il faut changer des choses. Et pour changer ces choses, il faut des idéaux. Il faut savoir se projeter, il faut pouvoir aller quelque part. Hein, parce qu'on y va gaiement là, allez, on est trop taqués, mais pour aller où, on sait pas. Enfin, c'est ridicule. ridicule. Donc les idéaux, c'est important. Les utopies sont importantes et savoir les développer et en créer de nouveaux systèmes, c'est important aussi. C'est pourquoi l'abandon des idéaux, et je vais finir là-dessus après, parce que voilà. L'abandon des idéaux au profit des stratégies politiques, ça nous amène inévitablement à des situations où le citoyen, si on a la chance de vivre dans un système démocratique ou pseudo-démocratique, est privé de réel choix. Hein, parce que, voilà, personnellement, je n'appelle pas ça vraiment un choix, l'intégralité de ces dernières élections, mais l'intégralité des élections, voire même la façon dont sont nommés certains députés européens. Enfin, bon, bref, le choix, on ne sait pas trop où il est. Mais par contre, au niveau des stratégies politiques, oui, on comprend très bien où on veut en venir. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Et puis aussi, je comprends pas que ceux qui pensent que ça pourrait changer un jour puissent être considérés comme naïfs. Enfin, j'ai du mal à... Voilà, je me dis qu'on est quand même un petit nombre, peut-être pas beaucoup, mais à se dire qu'on peut évoluer, que la race humaine n'est pas complètement foutue, que dans le monde entier, il y a des choses qui se passent, et qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, si moi je suis un bisounours, bon ben voilà, je vais sortir mon arc-en-ciel magique, tout plein d'espoir, et commencer à me dire, ben oui, c'est parce que je me bats tous les jours que... ça va finir par évoluer. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai juste oublié de dire un truc, mais quelque part, quand on adhère à une idéologie, hein, finalement, on l'intègre soi, on l'utilise au quotidien, on en fait quelque chose. Quand on est soumis à une idéologie, ben, on est sur des réflexes pré-réfléchis. Et voilà, je pense qu'il y a certaines idéologies qui amènent plus à la soumission qu'à l'adhésion. Voilà.
Et ben, c'était bien dit. Merci d'avoir partagé ces réflexions avec nous.
Mais de rien.
La question, est-ce qu'on passe la zik, est-ce qu'on fait la brève et on...
Brève et musique.
Alors bon, si vous voulez, donc c'est un peu... Clara attend. Alors il faudrait lui donner une réponse. Les auditrices et les auditeurs attendent.
Vous pouvez voter. Alors, on a une urne à l'entrée.
Tapez.
Mettez un petit... Voilà, ça marche bien, semblerait.
Non, mais on va mettre un peu de musique.
Allez,
musique.
Allez. Musique. Allez.
Je te côtoie depuis l'enfance, depuis le jour où je débarque en France. À l'époque j'avais confiance, t'étais celle que les bancs de l'école encensent. Les manuels semblaient tous unanimes, ta maxime avait toute mon estime. En trois mots j'étais conquis, j'avais compris. Tu portais le cri que le peuple exprime, légitime, bienveillante, généreuse, solidaire, accueillante. Que de vertus, que de compliments, ton bilan paraissait concluant. T'avais tué l'Empire et les sangs bleus, fait des lois pour étrangler les temples. T'as fait trembler les grands, crever l'écran. T'étais celle qu'on érige en exemple. Répugnant république. Gueule de vache, gueule de flic. Dis-moi pourquoi rester courtois. Tu n'as qu'un camp, oui, bourgeois. Dis-moi comment voter pour toi. Répugnant république. Avec toi le peuple, on n'a fait que changer de main. Je sais que je dois te dépasser si je veux chanter demain. Puis j'apprends les heures sombres de ton histoire, l'envers du décor de tes victoires. La mémoire chargée de sang t'a défendu l'étendue de ton territoire. J'apprends que derrière ta bonhomie se cache l'économie de tes colonies. Assaï va saïra folomie quand le trône autochtone enrichit tes lobbies. J'apprends les barbouzes, la France-Afrique, la ronde des valises diplomatiques. J'apprends la Doshine, j'apprends Papon, j'apprends Sétif et ton goût des canons. Souda la candeur ses disciples, je me méfie de tes disciples. Tant de déni de crimes indicibles, Souda j'accuse et renie ton hémicycle. Répugnant république. Gueule de vache, gueule de flic. Dis-moi pourquoi rester courtois. Tu n'as qu'un camp, oui, bourgeois. Dis-moi comment voter pour toi. Répugnant république. Avec toi le pape, on n'a fait que changer de main. Je sais que je dois te dépasser si je veux chanter demain.
Aujourd'hui tu n'es qu'un mythe, une relique, une supplique de plus pour Bigot. Un totem qui n'agite que les pourris, les brasseurs de vent et les bourricots. Langue chloroforme, langue de bois, tes phrases sont creuses, elles manquent de poids. Règne du faux débat, peste, choléra, tes porte-voix me mettent hors de moi. La sécurité dans toutes tes bouches, la peur de l'autre chez le français de souche. Que de la haine sous toutes ses couches, sans passe s'écrase les pauvres comme des mouches. Rétrograde, phallocrate, élitiste, raciste et mensongère. Ok, soyons clairs, si je t'insulte c'est volontaire. Répugnant république, répugnant république. Gueule de vache, gueule de flic, dis-moi pourquoi rester courtois. Tu n'as qu'un camp, oui, bourgeois, dis-moi comment voter pour toi. Répugnant république, répugnant république. Avec toi le pape, on n'a fait que changer de main. Je sais que je dois tout dépasser si je veux chanter demain.
C'est bon, tu peux couper.
Ouais, elle a coupé. Je crois.
Ouais, ça y est, auditeur, auditrice, t'es toujours à l'écoute de Radio Canu et c'est toujours la causerie. Et on vient de.
Non, non, ne le fais plus jamais comme ça, s'il te plaît.
Je ne peux pas.
Je valide pas.
Moi non plus. Je fais quoi que je veux. Je tiens un micro dans mes mains.
Je m'en vais dans 3 minutes.
Fais attention, c'est puissant.
Alors, on vient de s'écouter un nouveau titre de La Canaille qui est extrait de son prochain album à venir. Et le titre, c'était République. Je trouve très intéressant qu'un artiste. Anarchiste amène à la critique de la République, etc., etc. Enfin voilà, bref. On a juste une petite brève, c'est ça ?
Oui.
Un rendez-vous ?
Ouais, c'est la librairie La Griffe qui, samedi 13 mai, à 15h, propose en fait une rencontre-débat autour de la guerre du Cameroun, l'intervention de la France-Afrique, voilà. Et c'est proposé par l'Association des étudiants de culture africaine de Lyon. Et l'idée, c'est de débattre en fait de pourquoi elle va vraiment en Afrique, la France, quand d'un seul coup elle dit tiens, là je vais envoyer des soldats, vous voyez ? Ou tiens, là je j'en vois personne et je laisse les gens s'entretuer, vous voyez. Et ben voilà, c'est l'idée de se poser la question, et notamment à travers ce qui s'est passé au Cameroun, et de l'intervention, non-intervention, tout en intervenant de la France, et du fait qu'on a en gros protégé des intérêts financiers plutôt que des populations.
Arrête de spoiler.
Ben non, mais c'était écrit sur la fichette, hein, donc moi j'ai rien spoilé, c'est eux qui ont tout écrit. Hein. Voilà. Non mais je vous invite à y aller, c'est donc samedi 13, donc le samedi prochain, à 15h, librairie La Griffe, rue Sébastien Griffe. Voilà.
Eh ben, très bien, je crois qu'on a tout dit.
Attends, on a encore 50 secondes à tenir.
Non, mais moi, je voulais rajouter quelque chose. Une pensée quand même vraiment pour les gens qui sont en train de se faire gazer dehors. Mais juste, souvenons-nous tous, nous y compris qui descendons dans la rue régulièrement, que les révolutions se gagnent rarement en un jour et qu'on a besoin de bras pour les gagner et pas de martyrs. Voilà. Bonne soirée à toutes et à tous.
Eh ben, il a posé.
Eh ben, bonne soirée.
Hein, et bonne semaine. Oui. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la causerie, toujours de 22h à 23h à l'antenne de Canu. Et logiquement, après nous, je ne pense pas que l'émission ait lieu.
Non.
Mais je pense par contre que vous retrouverez des animateurs et animatrices de la radio qui vous donneront peut-être encore quelques informations sur les mouvements de foule à l'extérieur et les mouvements de police à l'extérieur toujours. Eh bien, bonne soirée. Bonne semaine.
Et d'ici dimanche prochain, n'oubliez pas d'avoir des idées.
Et on fait des gros bisous surtout.
Oui. Ah oui, c'est vrai.
Eh oui, c'est important les bisous.
Oui.
Merci Clara pour la technique.
De rien. Ciao.
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 Elle est pas contente. Elle me dit que pour ma portion, bah, il y en a pour trois quarts d'heure d'attente.